Merci beaucoup. Je voudrais d'abord évidemment remercier Monsieur le Directeur de son invitation, ainsi que son équipe, et puis aussi, bien sûr, mon collègue, le professeur Legendre, de m'avoir invité donc à reprendre un travail d'examen philosophique concernant les médiations de l'écrit. Alors, j'ai personnellement beaucoup travaillé sur la bibliothèque comme matrice épistémologique et politique d'un ordre social républicain et démocratique. Et donc, je souhaite poursuivre cette réflexion en prenant pour objet, cette fois, Internet, ou plutôt l'Internet. Et les modes, donc, de diffusion, de transmission, de production, d'édition, de ce qu'on doit appeler des textes. Alors, ma conférence, donc, est un peu un work in process, c'est-à-dire que je reprends un travail, après m'être un petit peu éloigné en travaillant beaucoup sur la philosophie politique, générée d'ailleurs par la matrice bibliothécaire, et reprendre donc ce questionnement. Alors, je partage, comme vous, sans doute, les mêmes interrogations face à ce nouvel Eldorado que pourrait constituer l'Internet. C'est-à-dire la même fascination et en même temps la même inquiétude, la même angoisse. Alors, sans doute, vivons-nous, et c'est une hypothèse que je défendrai et maintiendrai, une révolution reprographique déterminante, de même qu'il y a eu la révolution du codex, de même qu'il y a eu la révolution de l'imprimerie, peut-être nous vivons, sans doute, une révolution de l'ordinateur par l'informatisation des transmissions. Une nouvelle ère, eh bien, de même qu'il y a eu un nouveau contrat à partir de la naissance du codex, un nouveau contrat de lecture, d'écriture, d'action, de connaissance, de même pour l'imprimerie, peut-être sommes-nous en train de vivre un nouvel âge de la culture pris au sens large, une nouvelle ère que, en termes bachelardiens, j'appellerais une ère du bibliomène, qui est un des grands termes de Bachelard, la naissance entre les phénomènes que nous percevons et les noumènes que nous essayons de penser. Il y a des bibliomènes, c'est-à-dire des transcriptions médiatrices d'action et de connaissance qui portent le nom de livres, mais aussi de textes, plus généralement. Alors, comment maîtriser ce nouvel âge? C'est pourquoi j'essaierai de... Ma conférence s'intitulera « Les remédiations de la bibliothèque illisible » ou « Pour un nouvel esprit bibliothécaire ». Alors, n'oublions pas tout d'abord que l'écriture, sous des formes multiples et à travers de multiples auteurs, a été longtemps et souvent, et demeure encore, péjorée, minorée, comme étant un instrument d'aliénation de la voix authentique, de la parole pure. Et le lamentaux, donc, qui commence avec Platon, se poursuit avec Rousseau, se continue aujourd'hui avec la déploration, le lamento constant et en partie justifié, qui nous obligerait quasiment devant les formes techniques prises par la transmission, à la fois un dépôt de bilan, c'est fini, on ne lit plus, on n'écrit plus, et en même temps un appel au secours. Car en effet, de même que le codex, dans cette philippique, a fait disparaître le panthéon des dieux pour un seul dieu unique nous dictant, grâce à l'inspiration des prophètes, un texte unique qui dit tout sur le tout, De même, l'imprimerie, qui, elle, a minoré, ou du moins secondarisé, la prière de la Lectio Divina pour privilégier des formes laïques de lecture dans leur pluralité. Eh bien, de même, peut-être que l'ordinateur informatique, par sa puissance de transcription et de transmission, minore ou secondarise, non plus cette fois seulement l'auteur, mais les auteurs, les grands auteurs, la littérature, au profit d'une espèce de textocratie proliférante, sous des formes à la fois indistinctes et envahissantes, dans lequel on ne sait pas très bien se conduire, se diriger, s'orienter. En quelque sorte, le problème n'est plus de lire, mais de élire le bon texte que nous cherchons. D'où évidemment une certaine forme de crise. Donc il s'agit donc de savoir exactement, dans l'ordinateur, comme le mot l'indique, quelle est l'ordinatio qui intervient, c'est-à-dire quel type de mise en ordre, et partant, quel conseil on en peut tirer, en quelque sorte, où est le conseil de l'ordre, dans cette matrice générative. Alors, cette question a été, comme l'indiquait le professeur Legendre, a été beaucoup travaillée, mais d'une certaine manière, peu par les philosophes, j'allais dire, pur sucre. Et pourtant, il y a une tradition d'analyse et majeure. J'en vois une lignée, évidemment, qui va de Leibniz à Proudhon, en passant par Benjamin, jusqu'à Bachelard et Dagonier. Et c'est dans cette lignée-là que j'essaye de m'inscrire. Et donc, ma question est, dans ce nouvel âge, quelles sont les médiations nouvelles qui nous permettront, si possible, de nous bien conduire pour bien vivre ensemble et bien se comprendre. Et par là même, pour pouvoir faire des choix, et des choix libres, c'est-à-dire non conditionnés. D'où, évidemment, la question, qui va pouvoir nous fournir cette maîtrise? Quels sont les conseillers à l'intérieur de cette nouvelle bibliothèque qui nous permettront de rendre cette bibliothèque lisible. Alors, tout d'abord, partons de la mythologie, car évidemment, comme toujours, il y a une mythologie idéologique. Et dans ce cadre-là, il faut bien dire, depuis, disons, une trentaine d'années, c'est sonner trompette. C'est vraiment, nous vivons une nouvelle résurrection, une sortie de deuil, ce qu'on nommait, moi maintenant, mais les autoroutes, de l'information et de la communication, sont cette fois non pas annoncés, mais carrément en fonctionnement accéléré. Par eux s'ouvre la nouvelle voie de l'universel, la terre promise d'un réenchantement du monde, un nouveau monde, non pas un arrière-monde, au-delà du monde, non, mais le monde nouveau vraiment à notre portée, d'une sorte de paradis métaroutier où nous pourrions maîtriser la totalité des discours qui nous serait immédiatement disponible. D'autant plus paradisiaque que ce mécanisme ou cette matrice élimine tout ce qui, dans la matrice précédente de la bibliothèque, nous valait les plis amers de la mélancolie, c'est-à-dire tous les obstacles mis à la possession d'un document. Toutes les médiations, justement, institutionnelles, avec les contraintes de production, de lisibilité, avec les fameux papiers d'identité du livre, qu'évoquait Henri Jean Martin, eh bien, tout cela nous serait éliminé, nous serait... Et comme vous le savez, une autoroute, c'est des voies de circulation ouvertes sur un horizon infini, autorisant rapidité de déplacement et fluidité d'écoulement. Pas de carrefour, pas de feu rouge. Inversement, la matrice stricto sensu bibliothécaire, c'était plein de carrefours et plein de feux rouges. Donc, dans une autoroute, évidemment, il y a une espèce de conduite autonormée qui invisibilise toutes les surveillances, qui élimine toutes les contraintes géographiques de l'espace concret, de l'espace physique. En quelque sorte, hein, elles auraient la vertu d'éliminer l'espace et le temps, qui sont nos grands obstacles ontologiques. Parce que nous mettons du temps à accéder à un livre quand nous en faisons la commande à la bibliothèque, puis il faut qu'on nous l'apporte, puis ensuite, hein, nous devons donner notre identité pour avoir accès à ce texte. Bien, désormais, nous aurions un accès immédiat. Deuxième chose, c'est que sur l'autoroute, comme vous le savez, ou alors il y a vraiment un grave problème, il n'y a personne en face. Il n'y a pas d'autre en face. Il n'y a pas d'imprévisible. Toujours potentiellement menaçant, cet imprévisible autre. Hein. C'est-à-dire qu'il nous oblige à des conduites très, très normées. Ben, sur les autoroutes, il y a des pareils au même. Nous sommes tous dans le même sens. Il n'y a que des semblables, que des frères. On va tous dans le même sens. Le seul danger, c'est derrière ou devant. Hein. Ben oui, il y a des stationnements, il y a des ralentissements, il y a des etc. Hein. Mais il y a des chevauchements de lignes qu'il faut quand même surveiller en regardant derrière. Des déboîtements soudains qui requièrent donc une vigilance, mais toujours monologique. Jamais dialogique, toujours monologique. C'est nous-mêmes qui devons contrôler. Et dans les égalités d'accès, hein, des conduites certes diversifiées, des pratiques hétérogènes, mais toujours dans le même sens, hein, qui vont de l'utilitaire pépère hein, jusqu'au ludique sportif. Et nous verrons que la métaphore va se retrouver hein, dans l'Internet. Et donc, dans l'espace des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça veut décrire quoi hein, cette euphorie hein, qui induit une nouvelle ontologie, hein, dans un nouveau comportement dans l'espace et le temps des médiations. Eh bien, un échange direct, instantané, fluide, car dématérialisé, délocalisé, déhiérarchisé, en quelque sorte, hein, des relations pluralisées, mais sans le nœud des liens, un réseau interactif, sans le clan des mafias, mais nous permettant de multiplier hein, des identités ubiquitaires, en multipliant les pseudonymies, en multipliant les avatars identitaires, hein, derrière lequel, évidemment, agir selon des multiples formes, en faisant de multiples requêtes, de multiples demandes. Et donc, les flux immatériels de l'informatisation numérisée nous libère ainsi de l'écriture institutionnalisée. Elle nous libère de l'école, d'une certaine manière, avec son orthopraxie, son orthographie. Elle nous libère de la bibliothèque, elle nous libère des contraintes spatiales de la documentation, numérotées, etc., c'est-à-dire de tous les instruments autoritaires de l'institution étatique. En réalisant donc non pas un univers normé des écrits, des paroles, mais un plurivers, sans sol ni sang, sans frontières ni territoire. Donc, hein, allons dans l'euphorie, c'est une sorte de révolution anarchique, c'est-à-dire sans commencement ni commandement, sans constitution, sans autorité. Une totalisation harmonieuse, sans totalité ni totalitaire. Donc, vous voyez, il y a une euphorie, en quelque sorte, hein, c'est quasiment le paradis platonicien de l'intervention, d'une sorte d'écriture de la parole sans les contraintes instituées de l'orthographie, de l'orthopraxie, de l'orthodoxie. Ainsi, sur l'Internet, serions-nous sans toit, sans lieu, sans foi, sans feu, une sorte d'apothéose hein, d'une métaroute, hein, sans appareil politique de contrainte, de domination, une route purement route, au sens plein du terme, une véritable utopie et une eutopie. C'est-à-dire un espace sans contrainte ontologique qui nous rend heureux, puisque nous avons accès à tout. Le bonheur est réalisé normalement. Nous avons accès à tout et nous pouvons tout dire, tout faire, sur et grâce à l'informatisation numérique des données. Voilà l'euphorie. Très, très attractive et très, comme on dirait, vendable, très porteuse, puisque nous sommes tentés, évidemment, de la partager. Le grand rêve d'un univers culturel pluriel, jamais totalisé, c'est-à-dire jamais clos, toujours ouvert, sans contrainte ni autorité. Alors, essayons de voir un peu, de prendre au sérieux l'Internet. Et je vais poser des questions naïves. Internet, il y a un terme dedans, donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'il y a dedans, pour pouvoir le mettre au dehors. Parce que, d'une certaine manière, c'est ça la responsabilité du philosophe, il essaye d'objectiver, de mettre au dehors, de transformer en objet pour pouvoir le penser. Alors, ma thèse, et je suis obligé évidemment de travailler à coup de serpe, l'Internet, ce me semble une bibliothèque illisible. Toute la question, c'est comment la rendre objectivement lisible. Lisible, c'est-à-dire contrôlable, constructible, reconstructible, de façon évidemment à maîtriser autant que faire se peut des choix. Et ne pas se voir imposer aveuglément des contraintes ignorées. Je vais essayer de répondre à cette question. Qu'y a-t-il d'interne dans Internet? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une noix, comme disait Prévert? Qui et quoi est à l'intérieur? Qu'est-ce qui fonctionne à l'intérieur? Et ma question est, à l'intérieur fonctionnent des systèmes de médiation très puissants et très opératoires, qu'il faut donc, d'une certaine manière, connaître pour pouvoir les maîtriser. Et les connaître, ça me semble un nouvel enjeu des spécialistes de l'écrit, du texte, de la documentation. En quelque sorte, il y a à l'intérieur une espèce de machine qui ingère, qui ingurgite d'une manière très hermétique et opaque une totalité de données incommensurables. La question est comment elle digère, puis comment elle propose le résultat à notre dimension, à notre digestion. Donc, comment exhiber les index, les thésaurus, les renvois multiples, les rapprochements, les regroupements, les classifications, les ordonnancements, qui sont à l'intérieur de la machine spirituelle qu'est devenue Internet. Pris machine spirituelle, pris au sens de Marie Carothers. C'est-à-dire mode de génération de construction des écrits, des pensées, des actions, des connaissances, comparables à ce qui a eu lieu, selon elle, je crois à juste titre, avec le texte biblique, avec la mémoire littéraire, et aujourd'hui donc avec cette question. Alors, je suis comme vous devant une page web, devant une page de l'Internet. Il y a un mode inédit de présence et d'efficacité, par lequel, dans l'or que nous essayons d'y lire, d'y appeler, d'y demander certaines données, nous acquérons une certaine identité usagère des documents. Et donc, il s'agit de voir comment nous acquérons cette identité. Nous sommes tous, je crois, chacun d'une certaine manière, devant cette page, comme un peu stupéfiés par la pluralité qui nous est offerte. Est passablement diminué, voire incapacité, condamné à des tests, à des essais. Nous sommes quasiment condamnés à des essais perpétuels, sans être pour autant Montaigne, hélas. Et par là même aussi, engagé dans des choix que nous n'avons pas nécessairement voulu, mais qui sont pour autant extrêmement fructueux. Devant une possibilité à la portée de la main, là-devant, devant nous, devant notre écran, à la portée du geste, à la portée de la souris. Quel est le renard, quel est le chat, C'est étonnant qu'on appelle les forums de discussion des chats. Lui, en France, c'est étonnant. Et donc, devant le caractère incommensurable de ce qu'on appelle les affordances, c'est-à-dire les offres de possibilités. Il y a, disait Brassens, moi-même, je suis entre deux âges, n'est-ce pas, non pas complètement un vieillard kakoshi, mais absolument pas une jeune pousse. On est entre deux âges, tous, nous avons eu à traverser cette... Et je le crois, c'est non seulement un choc pratique, ce fut non seulement un choc pratique pour certains, mais je crois que c'est un choc métaphysique aussi, dans la mesure même où nous découvrons la possibilité d'une pluralité d'identités, d'une pluralité de savoirs, d'un foisonnement exubérant, un mélange d'effervescence et d'évanescence qui nous rend un peu pantois et qui implique effectivement, devant cette divinité nouvelle qui nous commande sans que nous ayons pour autant à obéir, qui nous oblige sans jamais nous rien demander, puisque c'est nous qui demandons. Donc comment réagir face à cette dynamique technologique de l'intellect, pour parler comme Jacques Goudy, qui met en réseau des intelligences dans une infrastructure industrielle et économique en offrant des possibilités plastiques infinies grâce à un appareil qui est l'ordinateur, lequel permet une pluralité de pratiques, de connaissances, de recherches, de discussions, d'écritures, d'entraide, de mutualisation, qui s'offrent ici et maintenant, dans leur pluralité comme dans leur potentialité. En quelque sorte, nous entrons dans la société de servuction ordinatrice. L'ordinateur fournit des services, et des services disponibles, mais hétérogènes et complexes. Pour autant, ils s'effectuent devant nous, grâce à nous, dans la réticularité qui nous propose une pluralité de choix, sans que nous ayons jamais conscience des modes opératoires de l'exercice. Donc, vous voyez, il y a à la fois une extraordinaire exposition plastique et une invisibilité radicale des applications qu'ils permettent. Donc, le paradoxe, et là, nous sommes en face à la fois d'un savoir totalement ouvert, offert, et en même temps d'une ignorance, d'une mise à distance radicale des processus. De l'usager fut-il le plus performant. Nous ne savons pas, quand nous sommes sur une page, exactement où nous sommes. Nous ne pouvons pas nous situer exactement. Nous ne savons pas très bien ce que nous faisons en le faisant. Ça s'effectue, mais la maîtrise épistémologique de ce processus nous est mise à distance. Il y a une forme d'impensibilité des règles de notre expérience devenue étrangement opaque, totalement oblitéré dans des processus médiateurs de formation, pourtant déterminants de nos identités, de nos ressources, de nos choix, de nos navigations interconnectives. Donc nous déployons à la fois une multitude de virtualités concrètes qui nous permettent de tout lire, tout entendre, tout écrire, et ceci en même temps, mais dans des médiations des contraintes indéfinissables, insaisissables, hormis la réquisition d'une technicité, d'informaticien, non seulement réparateur, j'y reviendrai, mais concepteur. Sachant bien, et j'y reviendrai, que les concepteurs n'assurent pas qu'il n'y aura pas de dysfonctionnement, j'y reviendrai. Donc nous vivons dans une sorte d'écosystème, une nouvelle écologie spirituelle, comme disait Palo Alto, opératoire et instrumentale de savoir, d'action, d'écriture, de lecture, de réflexion. Mais en même temps, et c'est la deuxième dimension, après l'invisibilité, le deuxième thème, c'est que le dysfonctionnement, la panne, le bug, est constitutif, non pas anecdotique, non pas marginal ou secondaire, mais constitutif de la recherche documentaire, informatique, sur l'Internet. C'est-à-dire, notre usage est toujours en défaut des possibilités. En quelque sorte, nous vivons une euphorie déceptive, puisque, d'une certaine manière, nous y avons accès, mais jamais d'une manière totalement satisfaisante, et en ayant toujours le sentiment d'une panique intérieure, comme quoi, non seulement on ne va pas trouver ce qu'on cherchait, qu'on va chercher ce qu'on ne trouve pas, mais surtout, nous sommes dans le bruit permanent des données, la profusion, devant une disponibilité. Donc, il y a une forme, on pourrait dire, d'apraxie, vous voyez, paralysante, car nous sommes à la fois impuissants, craintifs, dénués devant l'infinité incommensurable des paroles offertes, qui accaparent, qui sont normalisées pour autant et qui se diffraguent dans des machines qui la font exister. Et quand nous trouvons, c'est comme le dit Paul Mathias, qui est un des seuls philosophes contemporains, stricto sensu, puisque M. Paul Mathias est inspecteur général de philosophie, vous imaginez si c'est du sérieux statutaire, parle de serendipité, en faisant allusion au fameux conte italien de Walpole, à partir du conte italien des trois princes de Serendip. C'est une thèse comme quoi, dans l'anxiété de l'incertain, il y a des hasards bienveillants qui font que nous trouvons ce que nous cherchons. Mais la plupart du temps, on trouve ce qu'on ne cherche pas. Donc c'est la découverte, finalement. Donc la constitution d'un savoir propre est déterminée par le hasard et bien moins que par la sagacité. Donc nos recherches, d'une certaine manière, sur l'Internet, puisqu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, ni à quel titre nous pouvons faire fonctionner, c'est la coïncidence bien heureuse des aléas et des contre-aléas qui font que on trouve ce qu'on cherche. C'est évidemment l'inverse du processus bibliothécaire. Donc, d'une certaine manière, nous sommes dans un processus infini d'écriture transitive, médiatrice, d'intention complètement hétéronome, qui génère des agrégations sémantiques, hybride en des interfaces mobiles pour signifier une parole par l'écriture, car le paradoxe, c'est que tout cela passe par l'écriture et par le texte. Loin de disparaître, loin de s'effacer, la modalité scripturale est surdéterminée, mais par des automatismes aveugles. Alors, que devenons-nous ? D'une certaine manière, quand nous travaillons sur ces pages à l'intérieur, comme le dit Louise Merzot, qui a fort bellement réfléchi à ces questions, nous sommes des traces et des empreintes qui se greffent sur d'autres, se tissent avec d'autres, se relient dans des flux croisés d'interconnexion. Donc, vous voyez, cette bibliothèque illisible de stock localisable, qui ne sont plus localisables topologiquement et bioéconomiquement, échappent à la rationalité classique de la bibliothécation, mais pour une surbibliothécation, pour une surrationalité qui nous est plus ou moins étrangère. Alors que devenons-nous des traces, effectivement, déterminées par des capacités opératoires? Qui est le sujet qui questionne? Qui est le par lequel nous nous inscrivons dans des transactions réticulaires? Comme opérateur de lien, comme agent sélectif de pertinence dans le traitement informatique des données, dans cette multiplicité, que sommes-nous? Eh bien, la primauté désormais est donnée à la personne singulière. Le centre, c'est la personne singulière. Le sujet d'Internet est un jeu singulier, mais qui a une vertu, c'est qu'il génère des rassemblements par ses propres préférences. Ces préférences, en effet, elles sont à l'intérieur d'Internet, mesurables, quantifiables par ses traces et empreintes. Il y a donc une sorte de double numérique, polyphonique et multisectoriel qui génère des connaissances, qui génère des rassemblements, qui multiplie des sources et qui génère des ressources. Donc, vous voyez, il y a un changement paradigmatique de la raison bibliothécaire. Au lieu de dégager des procédures communes, des codes standardisés, il s'agit toujours, par Internet, par le mécanisme même, de générer des singularités calibrées au plus près des différentiels de requêtes. Ce qui permet de dégager, à l'intérieur même des mécanismes opératoires, ce qui permet de dégager des consommateurs pour les vendre aux annonceurs. Donc, la captation de nos transactions est génératrice de bases d'intentions mobiles qui permet donc des inférences statistiques ou des propagations réticulaires de ce qui a été plébiscité et préféré par un ensemble de requérants. Tout ce que je choisis d'atteindre et de recevoir et de lire et d'écrire en consommant tel ou tel site recommandés deviennent des recommandations d'appel qui génèrent des plus-values d'intérêt. En quelque sorte, chaque intervenant génère une puissance d'attraction qui devient le centre de production documentaire. Il s'agit donc d'une sorte de captation mobilisatrice de l'attention qui sont des gages de profit. Donc, d'une certaine manière, l'attraction que suscite une requête permet de quantifier une sorte d'aimantation grâce aux empreintes et aux traces que nous laissons par nos demandes et nos requêtes. Donc, il y a ici une production d'un type de sujet, écrivant, lisant, connaissant, qui peut s'identifier à l'homo numeroticus, qui n'est pas tout à fait le même que l'homo bibliothecus. Donc, vous voyez, nous sommes quand même ici interpellés au point de vue de notre intelligence critique, comme dans nos usages, comme dans nos pratiques. Il y a là une étonnante inversion, puisque la singularité individuelle des attractions et des appétits est moins traquée pour être éliminée qu'au contraire recherchée pour être promue, sélectionnée. En quelque sorte, c'est la singularité des requêtes qui fait la loi des préférences et des recommandations. Il y a là une exologie discriminative très très puissante qui fait que notre subjectivité mise à nu, exposée, exhibée, publiée par la prise de parole écrite dans les requêtes, peuvent aussi générer, deuxième point, une sorte de détabouisation de la parole, puisque il n'y a plus, nous sommes libérés des interdits. Nous pouvons légitimer toujours ex post nos réponses. Il y a là un espace de publication et d'expression désentravé, décontrôlé, évidemment, qui échappe tout à fait au monopole des médiateurs. Donc je pourrais continuer assez longtemps ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie de l'action sur Internet ou une bibliomnologie. Et j'espère bien y parvenir, mais pour autant, je suis obligé donc de conclure. Alors, face à cette générativité scripturale surmultipliée, multimédiatisée, quel type de raison, au sens fort du thème, pouvons-nous mettre en œuvre pour rendre lisible cette bibliothèque illisible ? Cette bibliothèque sans papier d'identité, de façon à essayer de la maîtriser. Eh bien, en conclusion, moi, je pense que les instruments conceptuels peut-être mobilisables dans ce que je pourrais appeler une dialectique du nom à la Bachelard. Vous savez que Bachelard a pensé le nouvel esprit scientifique à partir de ce qu'il appelait le non-cartésianisme, le non-newtonisme, le non-euclidisme, pour mieux penser la révolution de la physique, de la mathématique. Donc, en incluant Newton, Descartes, Euclide, comme des cas particuliers d'une généralisation extrêmement puissante, nous donnant accès à un réel phénoménologiquement insaisissable avec nos armes purement normalisées. Eh bien, peut-être, et c'est là proposition que je fais, devons-nous essayer d'accéder à un nouvel esprit bibliothécaire, inscrit lui-même dans un nouvel esprit politique, comme j'ai essayé de le montrer, et c'est sans doute vers l'idée de non pas seulement de la prolifération des auteurs, des écrits, des écritures, des lectures, mais vers l'idée de la reconstruction ou de la construction d'un nouveau surmoi culturel. D'une sorte, comme Bachelard le disait, d'un nouveau lecteur qui aurait une surculture, c'est la capacité de dialectiser toutes les offres dans un nouvel esprit, de façon à nous rendre capables, évidemment, de sélectionner, de façon à n'être pas condamné à la panique devant ce nouvel athlétisme de la navigation sur le net, car comme vous le savez, surfer sur le net, c'est comme surfer à la canoë ou sur l'Atlantique, c'est exaltant, c'est époustouflant, mais c'est extrêmement dangereux. Je vous remercie.
Bien, merci Robert Damien et merci pour cette mise en garde finale sur les dangers du sport que vous évoquez. Alors, nous avons le temps d'un échange, une vingtaine de minutes, un peu plus peut-être. S'il y a d'ores et déjà des questions dans la salle, nous pouvons les prendre directement.
Ça vous laisse comme devant la page internet, pantois.
Mais je crois qu'il y a une...
C'est pas tant une question. D'abord, merci pour cette magnifique introduction. Mais c'est pas tant une question que peut-être une comparaison. Est-ce que lorsque l'on était devant une bibliothèque, devant des rayons, une bibliothèque matérielle cette fois, on n'a pas aussi cette histoire comme ça de navigation où on tombe, puisqu'il y a un code absolument. Il se trouve que le hasard du code, je crois que c'est du Way ou je ne sais quoi, vous faisait parfois tomber sur des noms ou des lectures ou des auteurs qu'on n'aurait absolument jamais soupçonnés. Je crois que Borges et beaucoup de gens en ont beaucoup parlé. Et c'est absolument pas. Enfin, moi, je n'ai pas senti une opposition. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi des. On n'est pas dans la même, structure quand même ontologique, d'être qui va à la découverte de quelque chose avec des moyens bien différent, mais avec cette espèce de tâtonnement qui est déjà, enfin, vous avez parlé de toutes les difficultés à accéder aux livres qu'on voulait, enfin, sur l'identité notamment, etc., et la difficulté des bibliothèques à produire exactement l'ouvrage qu'on a envie de lire. Je crois qu'on est aussi, on était aussi dans cette dimension-là, qui est magnifique, enfin, qui fait que les rencontres et le hasard a grande part souvent dans la façon dont, la culture, enfin, advient, enfin, dont la curiosité, comment la curiosité se nourrit de choses qui étaient tout à fait accidentelles. Donc c'était juste un commentaire. Encore une fois, merci beaucoup pour votre.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que. Là, vous allez dire, je vais essayer de vendre ma marchandise, mais j'ai beaucoup écrit sur la constitution de la bibliothèque. Hein, comment elle s'est très, très difficilement et très conflictuellement imposée dans l'espace politique, hein, avec de nombreux obstacles, Il y a des. Moi, je suis toujours fasciné par le récit que fait Nerval, hein, de sa recherche. Hein, du texte de Debucquoy sur la République, hein, et en même temps, c'est complètement générateur de son identité littéraire, hein, de toute cette dimension-là, hein, des obstacles, des résistances. Je ne vais pas fâcher Anne-Marie Bertrand, mais le mythe du bibliothécaire Gardiochurme qui veut surtout pas, hein, qu'on ait accès à ses livres. Hein, et qui ne souhaite qu'une seule chose, hein, c'est que ces livres ne bougent pas, hein, et que moins il y a de demandeurs, et mieux c'est. Hein. Bon, vous voyez, c'est toute une mythologie. J'ai beaucoup écrit, hein, sur ces questions, hein, de la. Alors, nous avons, comme je l'ai dit au tout début, hein, la même tentation, hein, vis-à-vis de l'Internet. Mais il me semble, j'ai essayé du moins de montrer qu'il y avait des dimensions propres, hein, dues à la. Au traitement de texte, hein, dû à l'ordinateur stricto sensu, hein, qui fait qu'il me semble qu'il y a un nouveau sujet qui dit « je », hein, selon des formes ontologiques différentes, puisque l'espace et le temps ne sont pas les mêmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace et de temps, hein, mais ne sont pas les mêmes, hein, ne requièrent pas les mêmes gestes, les mêmes réactions, les mêmes types de conduites, par là même les mêmes types d'écriture, de lecture, hein, orthopraxie, c'est-à-dire selon des pratiques très, très, alors là, je ne vais pas développer, hein, linéaires, de gauche à droite, avec des pages, des livres, hein, des paragraphes, etc. Toute la mise en forme, hein, tout ça. Donc, il me semble quand même qu'il y a, il faut faire attention de ne pas céder aux lamentos, hein, mais en même temps prendre en charge quand même la modernité de la question. Mais je crois qu'il y a moyen, enfin c'est du moins ma thèse, hein, de développer en quelque sorte, hein, une rebibliothécation, mais dans l'esprit de la dialectique du nom de Bachelard, c'est-à-dire conserver pour dépasser, hein, mais à tout prix conserver.
Je souhaiterais alors te relancer sur une des dernières réflexions que tu as faites sur. Je cite, je crois, il n'y a plus de procédure commune, il n'y a plus que des singularités. Et il me semble qu'en même temps, sur Internet, se reconstituent des communautés, des tribus, Facebook, les amis, avec tout le côté artificiel de la chose. Hein, quand on a 14 000 amis, je ne sais plus ce que c'est qu'un ami. Comment tu articules ça, là, à la fois cette émergence d'une de communauté apparemment forte et la singularité.
Je pense que.
Peut-être pour la communauté des échanges, ce serait bon que les personnes qui prennent la parole dans la salle se présentent. En l'occurrence, c'était Anne-Marie Bertrand, directrice de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et de la.
Bibliothèque.
Bibliothèque, merci. Voilà, j'y étais presque.
Bien, ce qui me gêne, c'est le mot communauté. Ça me semble un mot trop fort pour la chose. Je dirais qu'il y a des collectifs. Hein, indiscutablement, qui se forment, hein, qui s'organisent, qui s'ordonnent. Hein, et d'ailleurs, la philosophie politique doit absolument analyser toutes ces coordinations, qui sont à la fois transitoires et mobiles, hein, mais je veux dire, communauté a un sens très très fort. Hein, donc, je pense quand même que c'est une facilité d'employer le mot communauté. Maintenant, il y a des mécanismes d'entraide, hein, de mutualisation, de réciprocité qui existent indiscutablement. Hein. Alors, je crois que c'est sans tomber dans la, il ne faut pas tomber ni dans la critique systématique, hein, qui consisterait à dénier toute valeur. Au contraire, moi, je crois qu'il y a beaucoup de valeur à toutes ces dimensions. Hein. Je pense que ce sont des sources, des ressources sans doute, mais s'y opère un nouvel esprit politique d'intervention, mais avec quand même des inconvénients. Hein. Puis, je veux dire, statut de la légitimité des interventions, un contrôle des interventions. Procédure de rétroaction, enfin il y a toutes ces questions hein, qui sont à rechercher. Donc moi je dirais communauté non, des collectifs sûrement. Et donc par là même, hein, de nouveaux modes hein, dialogiques hein, d'intervention publique. Hein, mais enfin, à analyser. Enfin moi je propose plutôt d'analyser avant d'avaliser.
Oui, Dominique Viard. Il me semble qu'il y a peut-être deux points sur lesquels il faudrait insister, en plus de ce très beau parcours que vous avez proposé. L'un que vous venez de toucher un peu, c'est qu'il n'y a pas sur le net d'éléments qui permettent de juger de la véracité ou de la fausseté des documents qui sont d'un seul coup apparus sur l'écran. Aucune procédure, si ce n'est très aléatoire pour l'instant, ne permet de le faire. Sauf avec déjà des éléments de réflexion et de distinction qui ont été construits en dehors du net, me semble-t-il, et par avant. Et donc il y a ce premier danger-là qui me semble devoir être pointé. Et un second, c'est une transformation du rapport au livre. Sur le net, on parlera plus facilement de texte que de livre. Quand vous êtes dans une bibliothèque et que vous faites une recherche, on finit par vous apporter un livre, c'est-à-dire un objet substantiel, organisé, construit, qui propose un discours ou une œuvre complète sous la signature d'un ou plusieurs auteurs, mais donc qui donne à voir déjà quelque chose qui est mis qui est construit, qui est en système, qui est élaboré. Alors que sur le net, une recherche ne vous donne jamais qu'une page, un fragment, un élément. Et de ce point de vue-là, il me semble tout à fait intéressant de voir qu'on a changé de lexique aussi pour désigner tout ça. Ce n'est pas seulement le texte qui est devenu plus important que le livre, c'est aussi que sur le net, on parlera plus facilement d'information. Et l'information est stockée de façon analytique, alphabétique, aléatoire. Elle n'est plus prise dans le discours qui lui donne sens. Et de ce point de vue-là, il y a une déperdition qui me paraît quand même extrêmement inquiétante.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être une nuance sur la... C'est à la fois une déperdition, mais en même temps une multiplication. Donc il faut tenir les deux bouts dans l'analyse, hein. voire même une surmultiplication des textes. Hein. Et alors, déperdition du sens d'un, ou plutôt d'une certaine forme de production du sens, diront certains. Hein, parce que du sens est bien produit, hein, mais selon des formes de production qui me semblent un des objets de la nouvelle raison bibliothécaire, hein, qu'il s'agit d'examiner. Hein, donc, si vous voulez, vous savez, le fameux... texte somptueux d'intelligence de Michel Foucault, qu'est-ce qu'un auteur, hein, la fonction auteur, hein, où il montre comment, hein, et surtout aussi dans la leçon inaugurale au Collège de France, hein, sur l'ordre du discours, où il montre, hein, la constitution, hein, pour les attaquer, hein, des normes d'intelligibilité, des normes de discursivité, et des normes de lisibilité. Hein, d'où les attaques, hein, contre la bibliothèque, bien sûr. Hein. Donc, oui, indiscutablement, il y a une normalisation qui s'est opérée et que Foucault a très bien mis en œuvre. Mais là, nous sommes en train de vivre une nouvelle ou de nouvelles formes de lisibilité, d'intelligibilité et de productivité du sens. Alors, Donc c'est cette pluralité qui est l'objet même. Hein. Moi, je suis évidemment prioritairement dans la matrice de l'auteur et de la littérature. Et de... Mais bon, il faut que nous essayions hein, de maîtriser autant que faire se peut par l'épistémologie critique de la raison bibliothécaire hein, la constitution de nouvelles normes de lisibilité et de nouvelles normes de signification et donc de nouvelles normes d'intention. C'est pour ça, au-delà de la présenterie, je pense qu'il faut que nous produisions, et c'est ce que j'essaye de faire très modestement hein, avec mes petits travaux, hein, une bibliomnologie. Parce que indiscutablement, entre le réel, entre guillemets, et nous, il y a tous les bibliomènes. Hein, donc, au sens bacharnien du terme, hein, c'est-à-dire des systèmes médiateurs d'accès à l'intelligibilité. Donc, oui, il y a une déperdition, oui, il y a une désubstantialisation hein, de l'auteur. Mais il y a peut-être hein, une multiplicité de substantialisations, hein, mais qu'il s'agit de hiérarchiser et donc de qualifier sans se les faire imposer, de façon à avoir une puissance de choix électif dans nos parcours. Car moi, je veux bien prendre l'autoroute, mais je veux savoir quand je peux sortir, comment je peux rentrer, si possible, que ça ne me coûte pas trop cher, sachant bien qu'il y a des routes annexes, hein, des petits chemins, hein, et que je veux savoir où je vais. Hein, puis je veux aussi savoir qui a produit tout ça. Et à quoi servent les impôts concernant les autoroutes? Vous voyez, à quoi elles ont servi? À quoi elles servent visiblement plus, puisque maintenant, hein, les autoroutes sont privatisées. Donc, vous voyez, il y a toute une hein, des questionnements. Et sinon, j'adhère complètement à vos analyses. Enfin.
Une dernière question.
Bonjour, Corinne Gay. Je vous remercie pour votre exposé qui était très intéressant. Je vais essayer d'aller rapidement et je n'aurai pas votre niveau de discours car je n'ai pas votre érudition. Vous avez parlé, alors deux petites remarques. Vous avez parlé de l'étymologie de l'Internet. On pourrait se souvenir que c'est le World Wide Web au départ, qu'il y a également un organisme qui s'appelle le VC3, je crois maintenant, qui s'occupe de tas de choses normatives, donc on n'est pas vraiment dans le vide intégral et on peut pister ou savoir où on se trouve. Lorsque vous avez dit à un moment donné, nous ne savons pas où nous sommes, il me semble, alors d'un niveau tout à fait matériel et non pas intellectuel, d'un niveau informatique, sur chaque page sur laquelle nous surfons, où nous allons, vous savez que dans votre navigateur, ou en bas ou en haut, vous avez le chemin, entre guillemets, il doit y avoir un autre terme informatique, mais en tout cas, vous pouvez suivre à la fois le site sur lequel vous êtes, à la fois la page PHP ou JPEG ou n'importe quoi, sur laquelle ça a été écrit. En outre, vous savez que chaque machine ordinateur reliée sur le réseau d'Internet a une adresse IP, Internet Protocole. Donc on sait pertinemment où on est. Pour avoir travaillé chez un pourvoyeur d'accès, vous savez que les données sont conservées pendant un certain temps et sont accessibles à la police de l'État dans laquelle vous avez surfé, etc., etc. Donc il me semble que, au contraire, l'identification du locuteur ou de celui qui a publié, elle est parfaitement possible, ou en tout cas assez souvent possible. Bien sûr, il y a des avatars, bien sûr, il y a des masques, bien sûr, il y a des gens qui font de la communication, qui se déguisent, ou etc., etc. Mais voilà, c'était...
Non, mais pas de problème de ce point de vue-là. Moi, d'abord, pour Internet, ce n'est pas une étymologie, hein, et puis je connais l'histoire.
Non,
je
sais bien.
C'est juste pour m'amuser sur
moi,
qu'est-ce qu'il y a.
Moi également, je...
Hein, voilà, c'est tout à fait. Questionnement à la Prévert, hein, donc. Pour les identifications, indiscutablement, sur les pas de problème. Donc, ce qui m'intéresse, moi, nous ne savons pas où nous nous situons dans les tuyaux de production, dans les mécanismes de production. C'est ça qui m'intéresse. Dans tous les systèmes opératoires de médiation, ça, nous ne savons pas du tout. On peut le savoir, mais je veux dire, l'intervenant lambda, hein, dans les mécanismes hein, de production du sens, hein, aussi bien syntaxique que sémantique, Nous ne savons pas. Par contre, nous avons une adresse, nous savons, pour un pseudonymé, enfin, etc. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et nous savons lire exactement, comme
mais
vous
si
le disiez
on veut,
en bas.
Mais si on veut, on peut le savoir. Ou en tout cas, peut-être que c'est l'enseignement de chaque nation de développer, parce que c'est pareil, apprendre à coder, c'est pas difficile, c'est même stupide, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus facile que de faire un exposé comme celui que vous avez fait et toutes les recherches universitaires qui peuvent être faites. Moi, je pense que c'est pareil, savoir chercher, apprendre à des enfants à développer leur sens critique, c'est au niveau de l'enseignement et de l'enseignement dès le début qu'il faut apprendre aux personnes à s'approprier. Ce n'est qu'un outil, quoi, Internet. Il ne faut pas le diaboliser, il ne faut pas en avoir peur.
Je suis d'accord avec vous sur le... Mais je ne pense pas que ça ne soit qu'un outil. C'est réducteur, c'est beaucoup plus puissant. C'est une machine spirituelle, pour moi, au sens de Marie Carothers. Mais sur le premier point, que je veux dire, toute la généalogie constructive des tuyaux, des appareillages, des équipements, soit l'objet d'un enseignement, par exemple à l'ENSIB, me semble pas mal comme projet.
Bien, ayant moi-même invité tout à l'heure à respecter le timing, vous êtes parfait, c'est visiblement l'envie d'échange qu'il faut écourter. On aura l'occasion, bien évidemment, de le reprendre tout à l'heure. Merci beaucoup, Robert Damien. Je crois que cette introduction de nature philosophique était tout à fait essentielle pour poser les enjeux. Moi, j'ai été frappé en vous écoutant par le fait que votre discours portant sur les bibliothèques, on est très tenté de le transposer, et vous l'avez fait à certains moments, vers l'amont de la chaîne de production du livre, vers les éditeurs, vers les bibliothécaires, vers les libraires, pardon, l'ensemble des intervenants de cette chaîne du livre. Et je crois que ce discours-là philosophique sur les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui concerne chacun de ces acteurs.